Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La famille a l'honneur en cette fin de semaine à Rome. Parents, enfants, grands-parents, ils sont venus par dizaines de milliers pour un pèlerinage placé sous le signe de la joie de la foi. Et c'est bien sûr la une de ce magazine. Dans l'actualité du Vatican également, le pape François qui fait l'éloge de Benoît XVI et de ses livres sur Jésus. Le pape François qui indique par ailleurs qu'il ne se rendra pas dans son pays natal avant 2016. Au sommaire, l'instabilité en RDC et au Mozambique qui inquiète des ONG catholiques et ne manque pas en fin d'émission nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Des milliers de familles catholiques de plusieurs pays se retrouvent à Rome dans le cadre de l'année de la foi, de jours de prière mais aussi de fêtes, de jeux et de convivialité avec des initiatives pour les plus jeunes. Le pape François a déjà rencontré les pèlerins ce samedi en début de soirée sur la place Saint-Pierre. Le rassemblement a été ponctué de réflexions, musique, témoignages et professions de foi. Ce dimanche matin à 10h30, le Saint-Père célébrera une messe solennelle pour les familles. Antonino Gallofaro est allé à leur rencontre samedi matin sur la place Saint-Pierre.
On est trois générations, on a la chance de venir à la rencontre du pape François avec donc les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Surtout pour nous Français, la famille est quelque chose de très important, surtout en ce moment où en France on souffre beaucoup de la mauvaise image de la famille, et donc on est là pour se ressourcer, pour témoigner que la famille est vraiment très importante et la base de beaucoup de choses dans la société, et on est très heureux d'être là avec notre nouveau pape.
C'est à la fois deux choses, c'est visiter d'abord les monuments de Rome, des ruines romaines jusqu'aux églises, aux basiliques majeures. Et c'est aussi témoigner pour la famille qui est en ce moment très attaquée. On milite pour une famille normale, pour une famille chrétienne.
En tant que grand-mère, je voulais absolument qu'il y ait un témoignage de la famille et surtout de Rome.
Vendredi, dans un discours au Conseil pontifical pour la famille, réuni en assemblée plénière, le pape François avait réaffirmé que la famille est le moteur du monde et de l'histoire. Une communauté où on apprend à aimer, où les membres dialoguent entre eux et font des sacrifices les uns pour les autres, et où ils défendent la vie, surtout celle des plus fragiles. Cette communauté, il faut la défendre, surtout à l'époque actuelle où l'on tente à privilégier les droits individuels. Le pape François avait également exprimé sa proximité avec les familles en crise et avec les couples séparés ou divorcés. Je vous propose d'écouter une des participantes à l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la famille, Amira Chakour. Elle est venue d'Haïfa, en Israël, avec son mari, pour apporter sa contribution et son témoignage. D'après elle, le principal problème que rencontre le modèle familial en Israël, c'est la question des mariages mixtes.
On a une déchirure dans les familles et ça nous fait mal. On essaye de saigner ces blessures, mais il faut un peu du travail. Il faut parler, il faut travailler avec amour et donner.
Quel est le problème du mariage mixte?
Il y a les effets de l'isolement sur les chrétiens. On est la minorité dans la minorité en Israël, puisqu'on est des chrétiens, 1% des gens d'Israël. Alors, il y a le problème d'immigration. Il y a les problèmes des éducations, il y a tant de jeunes filles qui ne trouvent pas aussi des jeunes hommes, alors elles trouvent l'autre côté musulman. Et ce n'est pas interdit, mais ça fait des problèmes avec les familles chrétiennes qui n'acceptent pas ce mariage, mais en même temps elles l'acceptent parce qu'il n'y a pas une autre solution. Et on ne peut pas faire, nous, comme Église, contre ces phénomènes. Il y a tant de problèmes, et ce qui me fait des soucis, c'est les gens qui deviennent musulmans. Ce n'est pas le mariage avec les musulmans aussi, mais les gens qui deviennent musulmans.
Vous avez un centre de famille avec votre mari. C'est le seul problème que vous relevez, le mariage mixte, ou il y en a d'autres?
Le problème pour la famille, quand elles vont être en couple, elles demandent comment on va divorcer après. Elles disent pas comment on va vivre en paix ensemble, mais elles veulent savoir la loi pour l'Église, s'il est permis pour divorcer ou non. Alors notre rôle ici, quand on prépare aussi les couples pour le mariage, on dit, nous on va vous dire comment vous allez vivre en paix et avec la joie de Jésus et la joie de la vie. Mais on ne veut pas vous dire comment vous allez divorcer.
Amira Chakour, membre du Conseil pontifical pour la famille, interrogée par Antonino Gallofaro. Dans la salle Clémentine ce samedi au Vatican, le pontife argentin a remis pour sa troisième édition le prix de la Fondation Vaticane Joseph Ratzinger Benoît XVI à un bibliste anglican Richard Burridge, doyen du King's College de Londres, et à un laïc catholique Christian Schaller, professeur de théologie dogmatique et vice-président de l'Institut Pape Benoît XVI de Ratisbonne en Allemagne. Dans son discours, le pape François a rendu hommage à son prédécesseur, déclenchant un tonnerre d'applaudissements. Le souverain pontife a tenu à préciser qu'il s'était entretenu il y a 3 ou 4 jours avec son prédécesseur, auquel il est lié par une profonde affection et reconnaissance. Tout le monde sait, a-t-il lancé, que Joseph Ratzinger faisait de la théologie à genoux, c'est-à-dire en priant. Le pape François a salué la publication de ses livres sur Jésus de Nazareth, une démarche qui avait pourtant suscité quelques réserves. Le pape François a suivi sa conscience éclairée, a-t-il dit. Il n'a pas posé un acte du magistère, il a offert, sous la forme la plus accessible, ce qu'il avait de plus précieux, à savoir sa connaissance de Jésus, fruit d'années d'études, de prières et de débats théologiques, conjuguant les exigences de la raison avec celles de la quête de Dieu. Ses livres ont fait beaucoup de bien et ont stimulé une nouvelle saison d'études sur les évangiles, du point de vue à la fois historique et christologique. Je vous le disais en titre, le pape François ne se rendra pas dans son pays natal avant 2016. Il l'a dit ce samedi matin en recevant un groupe d'anciens élèves des jésuites venus d'Uruguay. Le pape Bergoglio a assuré qu'une éventuelle visite en Argentine engloberait également le Chili et l'Uruguay, mais pas avant 2016. Parlant par ailleurs de son rôle de pape, il a confié que les gens au Vatican étaient très bons, que tous collaborent, mais qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Et il a aussi été question de football ce samedi matin au Vatican à l'occasion de la visite du président du Panama, accompagné de son épouse et des 13 membres de sa suite. Au cours d'une rencontre informelle qui a duré un peu moins d'une demi-heure, Ricardo Martinelli Berrocal a demandé au pape François des informations sur son travail, mais aussi sur son club préféré, le San Lorenzo, qui avait perdu un match justement la veille. Le chef de l'État panaméen a offert au nom de son pays une statue de la Vierge qui a été inaugurée dans les jardins du Vatican. Le pape François lui a donné un exemplaire du document d'Aparecida, élaboré en 2007 par le conseil épiscopal latino-américain et auquel l'ancien archevêque de Buenos Aires avait offert une contribution essentielle. Mais ne le lisez pas d'une seule traite, lui a-t-il conseillé. C'est un texte un peu lourd. En République démocratique du Congo, des combats ont repris vendredi matin entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans l'est du pays, à environ 25 km au nord de la ville de Goma. Ce sont les premiers affrontements entre les deux camps depuis la suspension lundi dernier de leur pourparler de paix à Kampala, en Ouganda. Armées régulières et rebelles s'accusent mutuellement d'avoir attaqué les premiers. Le Rwanda, qui soutient le M23, a par ailleurs accusé Kinshasa d'avoir bombardé son territoire et a menacé d'intervenir directement en zone congolaise. Cette reprise des violences place une nouvelle fois les civils en première ligne, ce que déplore Taylor Doeka, chargé de communication de Caritas à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu.
La situation s'est encore une fois dramatique puisque nous avons déjà enregistré au niveau de la communauté humanitaire ici quelques 3000 ménages déplacés. Donc, lorsqu'on parle de 3000, là, c'est environ 15 000 personnes puisque la zone était déjà déclarée une zone sinistrée. Il y a moins d'acteurs humanitaires dans les zones sous contrôle du M23, puisque presque toutes les organisations humanitaires ici avaient limité leur mouvement dans la région.
Vous avez le sentiment d'être abandonné par la communauté internationale? C'est le sentiment des gens dans la région?
Oui, en tout cas, c'est un peu ça le sentiment que la population qui est sous zone administrée par le M23 exprime, étant abandonnée par la communauté internationale. Les ONG ont préféré limiter leur mouvement. Donc, la population qui est dans la zone M23 se sent vraiment abandonnée.
Le Rwanda a accusé aujourd'hui l'armée congolaise d'avoir bombardé son territoire et menace même d'intervenir directement en territoire congolais. Est-ce que ces menaces du Rwanda font craindre un embrasement plus large?
Si jamais les Rwandais intervenaient, là, ça ne sera plus la guerre par rébellion interposée. Donc maintenant, ce sera la guerre ouverte entre deux pays. Alors là, ça va prendre une autre connotation, parce qu'il y aura des civils qui vont mourir, surtout entre deux villes, Goma, la ville congolaise, et Gisenyi, la ville rwandaise. Pour ceux qui connaissent la région, il y a juste une rue qui sépare les deux villes. Donc là, ça sera vraiment un embrasement général.
Taylor Doeka, chargée de communication de Caritas Goma, interrogée par Olivier Bonnel. Et la communauté catholique de Sant'Egidio est préoccupée quant à elle par le retour de l'instabilité au Mozambique. Sant'Egidio, qui a œuvré en qualité de médiateur en 1992 pour pacifier ce pays, exhorte les parties mozambicaines à reprendre le dialogue. Dans une déclaration, le président Marco Impagliazzo estime que l'évolution démocratique du Mozambique traverse une phase critique qu'il est urgent de surmonter. Ces 6 derniers mois, les ex-rebelles de Renamo, devenus le principal parti d'opposition depuis 1992, mènent des attaques sporadiques contre les civils. La tension est montée d'un cran lundi lorsque l'armée a investi la base principale de Renamo. Des éléments isolés de l'ex-rébellion ont riposté en attaquant un poste de police. Depuis, Renamo et gouvernement ont fait savoir qu'ils voulaient éviter une escalade militaire du conflit, mais une autre attaque meurtrière a eu lieu ce samedi. D'où l'appel pressant de Sant'Egidio qui souligne que l'accord de paix signé à Rome entre les parties en conflit a tenu pendant 21 ans. Le pape François a nommé un nouveau nonce apostolique au Venezuela. Monseigneur Aldo Giordano succédera à ce poste au nouveau secrétaire d'État du Saint-Siège, Monseigneur Pietro Parolin. Italien, âgé de 59 ans, Monseigneur Giordano était depuis 2008 observateur permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il a été entre autres professeur de philosophie et secrétaire général pendant 13 ans du CCEE, le Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Ses recherches et publications portent sur la philosophie contemporaine, l'éthique et le christianisme en Europe. Son dernier livre, publié le mois dernier, s'intitule « Une autre Europe est possible, idéaux chrétiens et perspectives pour le vieux continent ». Le livre pour Dieu qui vous est proposé cette semaine est insolite. L'objectif de l'auteur est de nous réconcilier avec l'Europe dont la crise nous fait perdre de vue la finalité. L'auteur est un journaliste, Sébastien Maillard, correspondant du quotidien La Croix au Vatican après avoir couvert les affaires européennes depuis Bruxelles. Dans son livre publié aux éditions Salvator sous le titre « Qu'avons-nous fait de l'Europe ?», il adresse 5 lettres à Maurice Schumann, un des fondateurs de l'Europe. Sébastien Maillard interrogé par sœur Catherine Aubin.
Très souvent on trouve l'Europe désincarnée, on ne sait pas. On parle de Bruxelles et c'est un, je dirais, De Gaulle aurait dit un machin, comme il disait à propos de l'ONU. Là, je voulais m'adresser à une personne. Et cette année, en 2013, c'est le 50e anniversaire de la mort de Robert Schuman, qui est l'un des pères fondateurs, sinon peut-être le père fondateur du projet européen. Ayant été correspondant à Bruxelles et ayant souvent vu le nom Schuman, que ce soit dans la station de métro, dans tout le quartier des institutions européennes, je trouvais qu'on avait en fait perdu de vue justement le projet d'origine. Et au moment où l'Europe est dans la crise que l'on sait, surtout depuis 2008 et la crise financière, moment où on a même douté si l'euro allait continuer ou non d'exister, on avait besoin, lorsque le projet trempe sur ses fondations, de se retourner vers les pères fondateurs. Et c'est pour ça que j'ai voulu directement m'adresser aux pères fondateurs en disant « Mais finalement, dans quoi vous nous avez embarqué? Qu'est-ce que c'est ce projet ?» Parce que l'ennui dans cette crise que nous traversons, c'est qu'on nous dit « Il faut faire l'Europe. L'Europe, il n'y a pas le choix. On est contraint d'avancer. Il faut absolument aller plus loin. Mais il faut nous dire pourquoi. »
La façon très agréable qu'on a d'aborder ce grand problème de l'Europe, vous l'abordez sous forme de 5 lettres que vous adressez à Robert Schuman. Et puis, bien sûr, vous voulez aussi qu'il nous donne des éclaircissements sur cette Europe.
Oui, parce que du coup, en faisant ces lettres, je me suis replongé dans lui, dans tout ce qu'il a pu... Il n'a pas écrit des livres, hein. Il a écrit un seul livre à la fin de sa vie, mais il a laissé beaucoup de discours, beaucoup d'interventions dans des différents colloques et en tant que ministre. Et donc, en me replongeant dans tout ce qu'il a pu produire, je trouvais que finalement, ça avait bien vieilli, ça n'avait pas pris de rides. Ça éclairait beaucoup sur la situation actuelle, parce que, encore une fois, l'Europe doit être un... Et c'est ce que j'ai voulu rappeler à travers ces lettres, c'est que c'est un choix. Bon, c'est pas quelque chose qui va de soi, et c'est pas non plus l'Union européenne, c'est pas du tout une fin en soi. Le projet n'a de sens que s'il c'est un peu comme un mariage, c'est libre et non contraint. Hein. Aucun pays n'est rentré de force, y compris les Anglais. Ils ont eu un référendum, ils ont dit oui. Nous avons eu un référendum en France en 72 pour les accepter, nous avons dit oui. Donc tous les traités ont été parfaitement ratifiés et il y a un choix. C'est pour ça que c'est pour lutter contre cette idée d'une Europe qu'on nous impose.
Dans votre livre, vous mettez en annexe le fameux discours fondateur un peu de l'Europe.
La déclaration du 9 mai, oui.
La déclaration du 9 mai 1950. Et cela est très passionnant dans votre livre, c'est qu'à la fois vous revenez aux sources et en même temps vous dites il y a des enjeux aujourd'hui dont on a perdu un petit peu la vision, retournons à la source et regardons vers l'avenir.
Oui, parce que toutes ces migrations d'Afrique, ça montre bien qu'on a besoin de bien repenser complètement notre coopération entre l'Europe et l'Afrique. Et ça, c'est déjà présent dans la déclaration du 9 mai 1950. Robert Schuman était, à mon sens, un vrai visionnaire. Autre chose, il vise aussi la fédération européenne. Je pense qu'un des mots aussi forts qui était pour lui, c'était le mot de communauté. Il y a un projet entre Européens de former une communauté, au sens de former une fraternité entre nous, où on met des biens en commun. Et l'Europe n'a de sens pour aussi servir nos valeurs.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez que vos lecteurs retiennent de ce livre ?
Je l'ai écrit à tous ceux qui se sentent aujourd'hui un peu perdus par le projet européen, qu'on a perdu le fil, qui ne sont pas anti-européens, mais en fait qui se disent « j'y comprends plus rien, ça ne me parle plus, justement c'est trop désincarné ». Et je voudrais, à travers ce livre, qu'ils se réapproprient le choix de l'Europe.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par Catherine Bain. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 27 octobre, le 30e du temps ordinaire. C'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Et c'est la parabole du pharisien et du publicain. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé.
L'évangile de ce jour est une parabole sur la prière agréable à Dieu. Un pharisien et un publicain prient dans le temple, la prière du premier est rejetée, celle du second acceptée. Voyons pourquoi. Tout d'abord, il est dit que le pharisien se tenait là et priait en lui-même, alors que le publicain se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Le pharisien est donc centré sur lui. Il se regarde. Le publicain, lui, est tourné vers le ciel, un ciel dont il se sent indigne. La prière agréable à Dieu commence par un décentrement de soi. Elle nous rappelle que nous faisons partie de la création et elle nous oriente vers le Créateur. Lorsque nous prions, il est essentiel de mettre de côté tout ce qui pourrait nous préoccuper afin d'entrer dans la présence de Dieu. Nous sommes appelés à louer et à magnifier le Seigneur pour ce qu'il est. C'est d'ailleurs ainsi que débute le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est que dans un second temps que viennent les intercessions. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses et ne nous soumets pas à la tentation. La prière agréable à Dieu est celle qui commence par le fait de se détourner de soi-même, de ses peines et de ses fatigues, pour s'orienter vers le Seigneur. Ensuite, quand le pharisien se regarde lui-même, il se croit juste. Il prie ainsi. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, injuste, adultère, ou encore comme ce publicain. » Le pharisien, au lieu de s'accuser de son propre péché, accuse les autres. Il voit la paille qui est dans l'œil de son prochain, mais il ne voit pas la poutre qui est dans le sien. Mais comment recevoir la miséricorde et donc la justice de Dieu si l'on ne se reconnaît pas d'abord pécheur ? La tendance à l'orgueil de l'homme l'empêche bien souvent de poser un regard lucide sur lui-même. La prière agréable à Dieu est donc celle de l'homme qui se sait pécheur. Tout comme Pierre lorsqu'il s'exclame après la pêche miraculeuse « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Lorsqu'un homme reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé, alors le Seigneur peut répandre sa grâce et sa miséricorde. La prière agréable à Dieu commence par une demande de pardon. Enfin, le pharisien continue sa prière ainsi. « Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne ». Force est de reconnaître le zèle du pharisien qui met en acte sa foi. Tous les croyants ne peuvent pas se prévaloir d'un tel jeûne et d'une telle générosité. Le pharisien commet cependant une erreur. Il oublie que tout don vient de Dieu. C'est lui qui donne le vouloir et l'agir. S'enorgueillir de ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est s'approprier une richesse qui n'est pas la nôtre. La prière agréable à Dieu est donc celle de celui qui se présente les mains vides, non pas parce qu'il ne fait rien, mais parce qu'il reconnaît qu'il ne peut le faire que par la force et la grâce que Dieu lui donne. En ce dimanche, demandons au Seigneur d'être renouvelé dans notre prière, qu'à la suite du publicain, nous sachions nous décentrer de nous-mêmes et reconnaître en vérité nos péchés. C'est alors que Dieu, donateur de tout bien, répandra en nous sa bénédiction.
« Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican en français. Bon dimanche à tous.